un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Delphine Jaffet s'entretient avec Didier Deninx, une émission enregistrée en 2014.
À voix nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffet rencontre Didier Deninx. Ce soir, le métier d'écrire.
Bonsoir Didier Deninx.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons évoqué votre environnement familial et les villes dans lesquelles vous avez grandi. Une chose aussi qui est assez marquante dans votre histoire, c'est que vous avez abandonné l'école très jeune, puisque vous êtes éjecté, comme vous le dites parfois, de l'école à 16 ans.
Oui, c'est l'école qui m'a éjecté. C'est une chose, j'étais un assez bon élève comme ça au collège et tout, et puis j'ai une troisième désastreuse parce que je m'intéressais beaucoup plus à des matières qui n'étaient pas au programme, c'est-à-dire le rock'n'roll et les filles. Bon. Et je me suis retrouvé orienté, sans qu'on me demande mon avis, au lycée technique qui était en construction à Aubervilliers, qui s'appelle le lycée technique Le Corbusier, qui avait la forme d'une usine tout en briques rouges comme ça. Et quand j'étais allé voir où j'étais affecté comme ça, à quelle sauce j'allais être mangé, on se déplaçait à 15 ou 20 comme ça, donc avec les copains on se déplace, et il y avait des bâtiments provisoires en face du lycée qui étaient encore en finition de travaux. Et il y avait une grille, donc on entre, et je vois mon nom, et on allait m'enseigner la comptabilité, le secrétariat, la dactylographie, la sténographie. Et donc, quand j'ai lu ça, mon nom, sur cette ligne-là, c'est comme si j'avais pris 20 ans de prison. C'est-à-dire, j'avais l'impression, quand on a 15 ans comme ça, que notre vie est terminée, quoi, que c'est fini. Le rail est unique. Et quand je suis sorti le dernier, en traînant les pieds, et j'ai pas fermé la grille, et il y a un type derrière qui a dit « une grille, ça se ferme ». Et en banlieue, quand quelqu'un vous tutoie, vous le tutoyez en retour. Donc je me suis retourné, je lui ai dit « si t'as peur des courants d'air, tu viens la fermer toi-même ». Et je suis parti, il y a eu les vacances, et en septembre, quand je suis revenu, c'était le proviseur du lycée. Et pendant un an, il ne s'est pas passé une semaine sans qu'il me cible, qu'il m'humilie, et ainsi de suite. Donc j'ai passé une seconde à apprendre la dactylo, la comptabilité et la sténographie qui me sortaient par les yeux complètement. En plus, on nous apprenait à taper à la machine sur des machines Japy, hein, qu'on voit encore dans les vieux films sur la gendarmerie. Et pour pas voir les touches, pour aller très très vite, faut taper sans regarder les touches, on vous mettait un bavoir. Donc j'avais un bavoir autour du cou avec un élastique de slip, un autre élastique de slip autour de la machine à écrire, on tapait, et on était trois garçons et 28 filles. Ce qui fait que ça aussi, c'est pas des choses pédagogiques qui vous donnent envie de revenir comme ça. Donc j'ai passé une année vraiment très, très difficile, et puis j'ai réussi à passer dans la classe supérieure, et quand je suis arrivé à 8h30, il m'attendait, le proviseur, il m'en a remis une couche et tout, donc à 9h moins le quart, j'étais dehors. Et puis c'était une époque bénie, hein, c'était l'année 1965, donc septembre 65, il y avait 300 000 chômeurs en France, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chômage. Donc dès l'instant où on cherchait du travail à 8h du matin, fallait être maladroit pour pas en avoir trouvé à 10h. Et donc c'est ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé, j'ai trouvé un métier, un emploi d'ouvrier imprimeur, un métier que je connaissais absolument pas.
Totalement par hasard.
Il y avait des annonces partout, donc on se baladait. Donc mon père habitait à Saint-Denis, en allant à Saint-Denis j'avais vu ça, dans un endroit qui a complètement disparu, c'est l'endroit où il y a la cité du cinéma de Besson maintenant, la tour Pleyel, et là il y avait plein d'usines qui étaient là, et il y avait une usine qui s'appelait la Johnson Française, alors la marque existe toujours, hein, c'est les cires à parquet, et puis les bombes de Sambon. Là. Et donc, je me suis retrouvé au service publicité à imprimer. Je savais rien faire. Il y avait d'autres ouvriers qui étaient là. Puis là, on rencontre la solidarité ouvrière. Ils ont vu que le petit jeune, il savait rien faire de ses 10 doigts. Et ils m'ont appris le travail.
À cette époque-là, c'était encore artisanal, l'imprimerie, dans les années 60, ou c'était déjà en train de changer?
Non, là, il y avait encore, c'était encore le vieux modèle, parce que je suis resté pendant un bout de temps dans cette entreprise, et ensuite j'ai changé, je suis allé sur Paris, dans le quartier Mouffetard, qui était un quartier très 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 populaire, le quartier Mouffetard, rue Tournefort, et je me suis retrouvé dans une entreprise qui faisait quelque chose qui a pratiquement disparu, qui était de l'héliogravure à feuilles. Donc c'est la semi-industrialisation de l'eau forte, hein, à partir du cuivre. Et c'était la première imprimerie des éditions de minuit clandestines. C'est là où a été composé le Silence de la mer. Et donc je me suis retrouvé dans un milieu ouvrier parisien, dans un endroit, le quartier Mouffetard, et à côté il y avait le théâtre Mouffetard. Et le midi, les entreprises du coin, quelques entreprises du coin, on mangeait, il y avait un accord pour manger au théâtre Mouffetard. Et là on était avec les comédiens, avec les chanteurs, et j'ai vécu ça qui existe plus, quoi. Une sorte de liaison d'une industrie traditionnelle qui remonte au Moyen-Âge, l'imprimerie, avec le monde de la culture. Et donc là, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est une sorte de presque d'idéal, quoi. Cette liaison-là, d'arriver à faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent, hein, dont tout ce qui a été éducation populaire, théâtre national populaire, enfin toutes ces choses-là, quoi. Avignon. Donc tout ça, je l'ai vécu au moment où c'est en train de s'effacer.
Et ce métier a également enraciné votre conscience politique et votre engagement. En 68, vous montez une section CGT dans l'une des usines dans laquelle vous travaillez.
C'est comme ça, oui.
Voilà. Quels étaient les enjeux de la lutte syndicale à cette époque-là?
C'était principalement la reconnaissance de l'activité syndicale. Il y a eu après des lois, après 68, où on virait et on licenciait un petit peu moins les militants syndicaux. On continuait à le faire, mais un petit peu moins après 68. Il y a eu ce mouvement pour faire reconnaître que l'espace du travail n'était pas un espace soumis, hein, et que les individus avaient une liberté de conscience dans cet espace-là. Puis une autre chose qui a bouleversé ma vie. En 68, on demandait le salaire minimum à 1000 francs. 1000 francs, 150 euros d'aujourd'hui, et moi je touchais 400, 500 francs. Et donc, d'un seul coup, ça modifiait totalement votre rapport à la vie, de pas être à sec le 20 du mois, quoi. Donc il y avait ça, et donc il y avait cette exigence-là. Il y avait aussi les femmes, hein. Aujourd'hui, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, il est de 20-25%, il atteignait 40-45%, hein. Donc ça a été, on se souvient plus de ça, c'est-à-dire mai 68, dans l'imaginaire, c'est resté la révolte étudiante, la révolte sociétale, qui a une importance capitale, hein. Le fait justement qu'après 68, la majorité soit à 18 ans, ça a été un changement total pour la jeunesse. Mais tous ces aspects quantitatifs comme ça étaient d'une très 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 grande importance. Le fait d'avoir une semaine de plus de vacances, c'est quelque chose qui modifie totalement votre vie et puis qui vous invente des sourires.
Et comment avez-vous vécu justement Didier Denynx mai 68, à la fois donc dans le milieu ouvrier dans lequel vous étiez, et puis dans Paris aussi, hein. Comment est-ce que vous avez vécu cette période?
Alors moi j'étais déjà entre deux chaises, c'est-à-dire j'étais dans un milieu ouvrier. Alors c'était le quartier de Pleyel, il y avait là le Gaz de France, il y avait les Coqueries, il y avait Oskitch, qui viendra Thomson par la suite, il y avait des dizaines de milliers d'emplois ouvriers, et toutes les usines étaient en grève, il y avait des drapeaux rouges partout, et les gens ont fait grève 3 semaines, 1 mois, dans mon entreprise on a fait grève 2 jours, donc on était regardé un petit peu comme un petit peu de travers, donc on faisait des efforts, mais on était dans une entreprise américaine qui faisait du marketing social et qui payait déjà plus, qui accordait tout un tas de droits comme ça, et donc les gens avaient déjà des acquis que les autres étaient en train d'essayer de conquérir. Donc il y avait ça, il y avait cette pression. Moi j'étais organisé à ce moment-là au Parti communiste, et il y avait une défiance totale vis-à-vis des étudiants. Donc dans ce milieu-là, il y avait vraiment vraiment un regard très 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 sévère, et pratiquement une interdiction d'aller les voir, de rentrer en dialogue. Et moi, je partais tous les soirs et j'étais boulevard Saint-Michel. Donc c'était les endroits où j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma et tout, c'était tout ça. Et donc j'allais et puis je discutais et j'essayais de comprendre leurs revendications et en essayant de faire valoir les miennes. Et puis en même temps, il y a sur Aubervilliers, et, j'habitais Saint-Denis à ce moment-là, mais sur Aubervilliers et La Courneuve, mes amis étaient là. Et on avait fait des choses absolument hallucinantes. On avait créé un journal surréaliste avec un groupe de gens qui s'intéressaient énormément au surréalisme. Et on faisait des tracts surréalistes qu'on allait distribuer à 5h du matin dans les piquets de grève et tout. Et les gens des piquets de grève nous prenaient pour des fous. Ils prenaient ces tracts qui racontaient pas les luttes, quoi, qui étaient sur quelque chose de totalement... C'est une sorte d'agit-prop avec une sorte de rencontre entre le surréalisme et Bertolt Brecht. Donc c'était assez curieux comme ça de faire ça. Donc c'était une sorte de révolte, mais une révolte qui s'exprimait sur un plan social, politique et énormément sur un plan culturel. Mais pour moi, cette période-là, elle a été rattrapée par août 1968. C'est-à-dire que dans la continuité de mai-juin, il y a août 68. Juin, juillet, août 68, c'est un des événements politiques dont j'ai eu le plus de mal à me remettre, c'est ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. Donc c'est d'un seul coup la dernière carte d'un socialisme non autoritaire et d'un socialisme qui respecte la liberté individuelle. Donc c'est toute l'aventure de Dubček et comment l'Union soviétique va imposer son talon de fer sur cette région et l'arrivée des chars soviétiques le 22 août 68. Donc 68, c'est pas la fin de ce qui se passe en France, c'est surtout ça. Moi, pour moi, ça a été vraiment une cassure, une sorte de... pas de prise de distance, mais une sorte de longue dépression politique, quoi. Ce qui s'est passé à Prague, pour moi, 22 août 68, c'est terminé, quoi. Il n'y aura plus jamais de crédit pour une utopie socialiste en Europe à ce moment-là. J'en prends véritablement conscience. Et donc, vous vous retrouvez, pour moi, dans la manière dont je suis constitué, c'est comme si je me retrouve au bord du précipice, comme ça. Et ouais. Voilà.
Et vous continuez après 68 à travailler comme ouvrier imprimeur, mais le secteur change et vous ne vous reconnaissez plus non plus dans ce métier, à tel point que quelques années plus tard, vous allez décider d'arrêter de travailler pendant quelques mois, de vous mettre au chômage volontairement, dans une période de chômage mais volontaire.
Oui, il y a eu une dégradation. Il s'est passé une chose, c'est que pendant toute une période, le syndicat du livre, c'était quelque chose qui existait sur Paris, qui avait une forte influence. Et par exemple, pendant des années et des années, j'étais pas embauché par les patrons des imprimeries. C'était le syndicat du livre qui faisait embaucher les syndiqués dans les entreprises. Quand j'avais besoin de chercher du boulot, j'allais avenue Blanqui à Paris, vers le métro aérien. Et là, on me disait, bon, tu vas dans telle entreprise, il y a une place dans ta qualification, j'y allais, j'étais embauché. C'est quelque chose hallucinant aujourd'hui. Et puis il y a un patron de presse, le patron du Parisien, qui s'appelait Monsieur Amaury, qui a consacré des milliards et des milliards de ses profits à tuer et à casser cette forme d'organisation syndicale. Il a réussi. Et ça, c'était une bagarre qui a duré pendant 2 ans. Et ensuite, les ouvriers imprimeurs parisiens sont devenus des ouvriers ordinaires. Alors qu'on avait quelque chose qui... Ce qui se passait, c'est qu'on était héritier de quelque chose. On était héritier du Moyen-Âge où les patrons ont été obligés de concéder aux ouvriers le savoir. Parce qu'on ne peut pas imprimer un livre si on ne sait pas lire et si on ne comprend pas ce qu'il y a dans le livre. Et donc, les ouvriers imprimeurs ont été les premiers ouvriers à pouvoir discuter philosophie, à mettre en page l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et ainsi de suite. Et ça a créé une corporation un petit peu différente, quoi. Et après, avec l'arrivée des technologies, avec l'arrivée des écrans, tout ça, la science ouvrière comme ça n'avait plus sa place. Et donc, moi, j'ai vécu la fin de quelque chose qui a duré plus de 4 siècles, quand même, hein. Et donc, ça a été détruit en 10 ans. Et c'est très, 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 très violent. Donc, à un moment, je lisais beaucoup de romans noirs. Il y avait la révolution dans le roman noir avec Jean-Patrick Manchette, Vautrin, et ainsi de suite. Je me suis dit, je vais essayer d'en écrire un. Donc, je me suis mis au chômage. Alors, je me suis mis au chômage grâce au premier ministre de l'époque, Raymond Barre, qui était le meilleur économiste de France, ce Premier ministre, et il avait fait une loi sur le chômage, et ses conseillers s'étaient un petit peu emmêlés les crayons dans la rédaction des décrets et tout, ce qui fait que quand on était au chômage, on était payé tous les jours plus le dimanche, ce qui fait qu'on avait 110% du salaire. Alors ils s'en sont aperçus au bout de quelques mois, ils ont changé, mais j'ai bénéficié de ce mécénat de M. Raymond Barre pour écrire mon premier roman, quoi.
C'était quelque chose auquel vous aviez déjà pensé, Didier Denynx, à écrire, et notamment à écrire un roman noir, ou ça vous est venu à ce moment-là, précisément ?
Non, se lancer dans le roman, moi, je m'intéressais plutôt au cinéma, j'allais pas mal au théâtre à l'époque, et puis il y avait une sorte de subversion du travail, c'est-à-dire que tous les éléments de l'imprimerie, les plaques offset, le plomb, l'encre et ainsi de suite, je faisais des tableaux, je faisais de la sculpture, donc je prenais les éléments du travail et je muais le travail en art. Donc je faisais ça, et à ce moment-là j'ai rencontré un copain de toujours qui s'appelle Jean-Pierre Couroy, qui était aux arts appliqués, et qui a reconstitué tous les cours de l'école allemande du Bauhaus. Et donc le soir après le travail, j'allais à Bobigny, il avait une salle qu'il avait réussi à récupérer, et on refaisait tous les cours comme ça, qui est le Bauhaus, qui est aussi une liaison entre l'art et l'industrie, hein, et les techniques. Et donc j'ai travaillé sur ça, et donc j'étais beaucoup plus sur les côtés graphiques. Je faisais de la mise en page, je composais des affiches et tout. Et ce qui est arrivé, c'est Jean-Patrick Manchette. D'un seul coup, je lisais beaucoup, et les premiers romans de Jean-Patrick Manchette, après Vautrin, après Frédéric Fajardi, Jean-François Villard, d'un seul coup, ça a été comme une claque, véritablement. La littérature française prenait à bras-le-corps les mutations de la société. Pour la première fois, je me reconnaissais dans les romans, quoi. J'avais l'impression que les personnages parlaient la même langue que moi et qu'ils avaient les mêmes angoisses, les mêmes révoltes, les mêmes rêves, et ainsi de suite. Donc d'un seul coup, quand on lit et qu'on est projeté dans la littérature, j'ai l'impression qu'on a envie d'en faire, quoi.
Mais alors, vous écrivez votre premier roman, Mort au premier tour. Vous l'envoyez à plusieurs éditeurs, mais vous n'obtenez pas de réponse. Pendant 5 ans, vous n'allez pas obtenir de réponse suite à l'envoi de ce manuscrit. Et vous devez de nouveau travailler, Didier Denynx, reprendre le travail. Alors, il était inconcevable pour vous de retourner en usine. Hein. Vous allez vous allez faire d'autres choix professionnels.
Oui, je deviens animateur culturel, un petit peu éducateur de rue à Aubervilliers, comme ça. Et je me retrouve dans une maison de jeunes au Pont Blanc. Et puis, ça fait du ping-pong, ça joue au tarot, on organise des week-ends et tout. Et moi, ça me... Bon. Et je décide de transformer la maison de jeunes en salle de spectacle. Donc je fais venir des troupes de théâtre, Richard de Marcy qui débutait là, tout un tas de gens comme ça, Iguir, Bernadette Lafont, Fonteval, tout un tas de gens comme ça. Et en même temps, de faire du cinéma. On organise des nuits du cinéma, on fait des projections, 4 films dans la nuit, jusqu'à 3h du matin, mais on a 100 personnes dans la salle. Et je fais, en banlieue comme ça, dans une cité d'Aubervilliers, on fait une rétrospective d'un cinéaste d'avant-garde américain qui s'appelle Monte Hellman, avec les premiers rôles de Jack Nicholson. Et on a les jeunes de la cité qui sont là et qui sont fascinés. Et puis après, je projette les films, et une fois que le film est projeté, je viens devant le public et je fais le débat sur le film qu'ils viennent de voir. Et puis après, je vais reprojeter derrière. Après, je me balade avec une petite fourgonnette et je fais un ciné-club itinérant et tout ça. Donc j'ai fait ça. Après, je me passionne, enfin avec les copains dessinateurs, je fais des expositions ici de dessinateurs de presse. Donc avec les dessinateurs du Canard Enchaîné comme Cardon, Escarot, il y avait à l'époque les dessinateurs d'un journal qui était un journal du Parti Socialiste qui faisait appel énormément aux dessinateurs, ça s'appelait L'Unité. Il y avait une pépinière de dessinateurs comme ça, avec Chantal Montaillet aussi, avec tout un tas de... Donc j'ai fait ça et c'est un métier qui m'a plu, que j'ai fait pendant 2 ans et demi, qui est extrêmement fatigant. Mmh. Mais avec aussi la municipalité qui arrivait pas à contrôler ce genre de choses. En gros, on faisait passer à l'époque le message comme quoi notre rôle, c'était de faire en sorte que les jeunes quittent les halls des HLM et qu'ils laissent tranquilles les gens et tout, et que c'était pas la peine d'aller aussi loin, quoi. Donc à un moment, ça fatigue. Et puis là, après, je suis devenu journaliste localier dans une partie du territoire qui était en pleine mutation, c'est-à-dire vers l'aéroport de Roissy.
Devenir journaliste localier, Didier Denin, que c'était une manière de continuer à écrire puisque, est-ce que vous continuiez d'écrire
non,
de la fiction
pas.
Après cet échec
ben non, parce que j'avais écrit ce premier roman, je l'avais envoyé à 10 éditeurs, il y en avait 9 qui m'avaient dit arrêtez le massacre, et le 10e m'avait pas répondu. Donc j'avais complètement arrêté, surtout qu'autour de moi, à part ma femme qui me soutenait dans mon écriture, qui me disait « continue, il n'y a vraiment aucun problème », pas mal de copains me disaient « mais non, c'est pas pour toi, faut pas rêver, en gros, depuis l'époque des cavernes, tu vas pas être le premier écrivain dans ta famille, quoi. » Donc à un certain moment, et les gens vous disent pas ça de mauvaise part, ils veulent vous protéger en disant « mais... » Le souvenir de la misère ouvrière, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, ça remonte à quelques dizaines d'années où quelqu'un qui travaillait pas d'un seul coup, c'est extrêmement fragile. Donc c'est protège-toi, retrouve un travail, quoi. C'était ça. Et donc, voilà. Et le métier de journaliste localier, non, c'était la liberté que ça, c'était surtout ça, c'est-à-dire travailler à l'air libre.
Les déplacements.
Voilà le métier d'éducateur comme ça, on est dehors, on organise un peu sa journée, on est un peu libre de ses horaires. Et journaliste, c'est pareil, on se balade, c'est l'idée que j'en avais, quoi. Moi, je savais pas trop ce que c'était, hein. Je suis arrivé, j'avais jamais été journaliste, donc du jour au lendemain, il a fallu que je rende compte de la vie quotidienne de cinq communes, Villepinte, Tremblay, Sevran, puis je sais plus quoi, Aulnay-sous-Bois et Blanc-Mesnil, voilà.
Et est-ce de là, de l'exercice de ce métier-là, Didier Denynx, que provient votre fascination pour le fait divers et qui va aussi être très présent dans vos romans et dans vos textes ultérieurs?
Oui, il y a les deux. Il y a d'une part le fait divers, c'est la fréquentation des textes surréalistes. Hein. Donc là, la fascination pour le fait divers est vraiment, vraiment là, et pas que chez Desnos. Donc il y a ça, il y a cette manière de considérer le fait divers comme une sorte de rupture, ou le fait divers comme un point de vue à adopter sur la société, au moment où François Bon, il appelle ça le point de vue de l'enfer. Hein, on choisit le point de vue de l'enfer pour regarder ce qui est en train de ce qui est sous vos yeux. Donc il y avait ça, et puis ensuite de le pratiquer, de s'apercevoir que le fait divers est véritablement parlant. C'est une sorte de sous-titrage de la vie quotidienne. D'aller tous les mercredis, j'allais dans les commissariats et je lisais la main courante. Et là, vous vous apercevez de la pulsation de la ville. Vous savez ce qui se passe à 3h du matin, 4h et tout. Et c'est les problèmes de famille, les problèmes d'alcoolisme, toute une série de choses. Des choses qui sont totalement invisibles comme ça. D'un seul coup, vous apercevez qu'il y a une vie souterraine comme ça de l'espace dans lequel vous êtes et auquel vous échappez complètement si vous n'allez pas voir sur la main courante. Donc il y a eu ce type de choses. Puis la lecture de Félix Fénéon, quoi. Les faits divers en trois lignes de Félix Fénéon. Donc de voir que le fait divers peut, en l'espace de quelques lignes, avec le titrage et avec la chute qu'on ménage, faire un objet littéraire. Et donc moi je me suis pris au jeu, mais comme beaucoup beaucoup de journalistes localiers, hein, c'est tellement ingrat comme travail, tellement répétitif et ingrat, qu'il y a des soupapes de sécurité dans ce genre de rédaction. Et j'ai fait plein de faits divers de genre dans la presse locale, je m'y amusais, quoi.
Alors, il y a autre chose dans cette expérience qui a sans doute nourri votre écriture par la suite, c'est l'attention que vous portez aux détails, à la reconstitution d'atmosphère. Voilà, ça aussi, ça nourrit, cette expérience-là a nourri votre écriture ultérieure.
Mais je m'en suis aperçu après, hein. C'est-à-dire que sur le moment, il y avait vraiment ça. Et puis après, on s'aperçoit que pour être intéressant pour votre lecteur, ça vous oblige à chercher des angles extrêmement, extrêmement différents. Pendant toute une période, j'ai fait ça pendant des semaines et des semaines sur Villepinte, sur des villes comme ça. Il y avait plein de gens qui construisaient des petites statues dans leur jardin, des lions, des choses comme ça. Donc chacun s'exprime comme ça. Et puis j'étais tombé sur un type qui était en train de repeindre une femme nue qui était en béton comme ça, sous un arbre. Il avait dressé un arbre pour que ça lui fasse un parapluie comme ça. Et il a repeigné en rose. Et il lui repeignait la bouche en rouge, les yeux bleus, et ainsi de suite. C'est un monsieur qui avait 75-80 ans, le pubis en noir, comme ça. Puis d'un seul coup, comment je discute avec lui, je dis, je peux prendre des photos, il me dit, il n'y a pas de problème. Et il y a une vieille dame de son âge, 75-80 ans, qui sort, il me dit, c'est elle. Et en fin de compte, c'était un hommage à sa femme. Et j'avais fait un article, voilà. Et de prendre, à côté de mon travail, je faisais toute une série de repérages sur plein de choses comme ça. Et j'ai découvert des histoires incroyables. Mais personne prend le temps de faire ce. Donc et surtout dans ces endroits-là, c'est des endroits, des villes comme Villepinte, Aulnay-sous-Bois, tout ça, Blanc-Mesnil, c'est des villes qui sont hors du regard. On s'y intéresse pas. On croit qu'on sait tout sur ces villes et qu'elles se résument à des cages à lapins, à une violence, à trois voitures qui brûlent et ainsi de suite. Quand on y plonge et qu'on y va, on s'aperçoit ça. Et la grande leçon, c'est qu'il suffit de cogner à une porte et il y a une histoire qui est là. Il y a de la matière romanesque partout. Et donc, c'est le fait d'y aller, d'arpenter, de rencontrer et de considérer que ces endroits-là sont des endroits dignes d'intérêt.
5 ans plus tard, en 1982, vous recevez la 10e réponse, qui est donc la réponse d'édition du Masque, qui accepte votre manuscrit. Et qu'est-ce que ça provoque chez vous, alors que vous aviez abandonné l'écriture ?
Ah ben c'est une surprise, parce que je rentre du travail un soir, et il y a une lettre qui est là, j'ouvre, et c'est l'édition du Masque qui dit, voilà, on a lu votre roman, je l'ai envoyé 4 ans et demi plus tôt, et il l'accepte. Alors il y a eu un changement de direction, il y a un jeune éditeur qui est arrivé, qui était dans les archives pour essayer de trouver des romans, il était en manque de textes qu'il jugeait intéressants, et dans les archives, il a retrouvé 2-3 textes comme ça, dont le mien, donc je lui dois une fière chandelle, et donc le livre a été publié, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que comment vous avez abandonné toute velléité d'écriture, vous vous êtes conformé à la vie générale, comme ça, vous avez rassuré votre famille, tout le monde, voilà, vous êtes sur des rails comme ça. Et puis d'un seul coup, vous vous dites, non, ma vie, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc ça remet tout en cause et tout. Alors que, bon, c'est très fragile. Une édition aux éditions du Masque, c'est rien, quoi. Comme à l'époque, financièrement, et ainsi de suite, ça pèse pas. Mais d'un seul coup, c'est une énergie absolument considérable. Et comme il s'était passé 4 ans et demi entre l'écriture de ce roman-là et son acceptation, il y avait toute une série de choses dans ma tête qui, sans que je le sache véritablement, qui s'étaient décantées. Et puis il y avait surtout eu un fait politique très très important, c'est de découvrir qu'un ministre de la République pouvait être un complice de crimes contre l'humanité. Et donc ça, c'est quelque chose qui me pesait sur les épaules d'une manière absolument incroyable, c'est-à-dire d'être dans un pays démocratique, républicain, et qu'un complice de crimes contre l'humanité arrive aux plus hautes fonctions de l'État et soit tous les mercredis autour de la table du Conseil des ministres. Et c'était quelque chose que j'avais envie de me démarquer du silence de ce pays vis-à-vis de ce fait. Et donc la publication du livre du Masque, ça a été pour moi la possibilité d'élever la voix contre Maurice Papon. C'était véritablement ça, hein. Ça a été un lien absolument, absolument direct. C'est-à-dire, vous acceptez d'entendre ma voix, j'ai quelque chose à dire.
Merci beaucoup Didier Deninx et à demain soir.
Merci.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Didier Deninx. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 1 an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffé avec Didier Deninx.
France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Didier Deninx dans un feuilleton réalisé par Jean-Mathieu Zand.
Pages arrachées à Didier Deninx. Texte choisi par Sylvie Ballou. Aujourd'hui, extrait de L'heure de vérité, une nouvelle parue en 1992.
À 8 heures précises, Simon Elmaz fit un signe au technicien qui abaissa la manette du son. Le générique de Café Croissant, le talk-show matinal de Télépremière, défila en surimpression devant les images du nouveau clip de Renault, Marchand d'Yuka. L'extrême tension nerveuse emmagasinée dans la cabine régie chuta d'un coup. Une véritable dépression.
Et voilà, une de plus dans la boîte, merci tout le monde.
Il passa son bras autour du cou de Cécilia, une jeune stagiaire qui venait de participer pour la première fois à la réalisation d'une émission de télé en direct, et l'embrassa affectueusement. L'équipe au grand complet se mit à applaudir pour marquer le coup. Simon sortit du local vitré pour aller serrer la main du journaliste vedette de Café Croissant, mais Teddy Bouchareau prenait congé de l'invité du jour, une ancienne prostituée reconvertie dans la pizza minute. Il grimpa l'escalier de fer qui menait à son bureau, un réduit de 2 mètres sur 3 planqué au bout d'un couloir, après la salle de détente. Il s'installa dans le fauteuil, posa ses pieds sur une des tablettes de rangement et ferma les yeux pour effacer les images rémanentes de Monsieur Météo, de Teddy Bouchareau, de la fille aux pizzas, des singes de la pub, des combats interethniques, des Jeux Olympiques d'Albertville. Cette phase de nettoyage des images qu'il avait servi à quelques millions de Français lui demandait un bon quart d'heure. Ensuite, le boulot était presque terminé. Il préparait le découpage de l'édition du lendemain, inventait quelques déplacements de caméra, osait un plan piqué dans du Wells ou du Lozay. À 10h du matin, il était libre et pouvait entamer la part d'existence qui lui importait. Il consacrait le reste de sa matinée à la lecture de livres, de scénarios, puis il retrouvait Carole au drugstore Publicis. Elle bossait dans le quartier, à un mi-temps dans une boîte de communication institutionnelle, et ils passaient tous deux l'après-midi dans les cinés de Saint-Germain et de Montparnasse, traquant le festival Julien Carrette, la rétrospective Elliot Gould ou l'hommage à Michael Römer. Le soir, Simon se couchait tôt pour être en pleine forme, à 5h30, aux commandes de son orchestre électronique. Ce matin, il ne parvenait pas à se décider. Rien ne l'inspirait. Les fiches de l'émission étaient dispersées sur le bureau, bleu pour l'info, rose pour la variété, orange pour la vie pratique, jaune pour la pub. Teddy Bouchareau recevait Guy Dehalt, un écrivain spécialiste du secret d'alcôve. Les images de Robert Hossein dans Angélique, marquise des anges, se mêlaient dans sa tête à la partie de Jambes en l'air de Philippe Noiret et Christine Pascal dans Que la fête commence. Trop kitsch, trop intello. Il se rabattit sur Si Versailles m'était compté et téléphona à l'Institut national de l'audiovisuel pour disposer rapidement d'une cassette du film de Guitry. Il s'apprêtait à quitter les studios quand on frappa discrètement à la porte.
« Oui, entrez. »
Un type qu'il ne connaissait pas se tenait dans le couloir, les bras chargés de courrier.
« C'est pourquoi ?»«
Je suis nouveau, je travaille au courrier. C'est bien vous, monsieur Elmaz ?»
Le réalisateur cligna des yeux pour lui signifier d'aller à l'essentiel. Le coursier lui tendit un pli et disparut vers l'escalier. Simon, intrigué, décacheta l'enveloppe aux couleurs de Télépremière et tira la lettre à en-tête de la direction de l'information.
« Cher monsieur, dans le cadre des restructurations qui touchent le secteur des magazines et des journaux télévisés de notre chaîne, vous n'assurerez plus que 2 vacations par semaine, au lieu de 5, dans le cadre de Café Croissant. Je tiens à vous dire personnellement que votre collaboration nous donne toute satisfaction et ne voyez dans cette décision qu'un effet des ajustements rendus nécessaires par le redéploiement de notre effort en direction du tout-fiction. En revanche... Le groupe de réflexion récemment constitué et chargé de veiller à la redistribution des capacités créatives m'a suggéré de vous confier la réalisation, une fois par mois, de notre magazine politique hebdomadaire « Toute la vérité ». Je pense que cette proposition vous agréera et qu'elle vous donnera l'opportunité de déployer tous vos talents au service des 40% de téléspectateurs français qui font confiance à Télépremière. Thomas Levaillant, producteur et présentateur de cette émission, prendra contact avec vous afin de déterminer les bases de votre participation.
Simon Elmaz relut le texte à haute voix, puis il se munit d'un stabilo boss et souligna au fluo les membres de phrases importants, débarrassant la prose directoriale de sa graisse.
Restructuration, ajustement nécessaire, redéploiement, 2 vacations au lieu de 5, 1 magazine par mois, opportunité de déployer vos talents, français, base...
Ce jour-là, ils n'allèrent pas au cinéma, malgré la ressortie exceptionnelle à l'Action École de Petits meurtres sans importance, un brûlot invisible depuis plus de 10 ans. Ils arpentèrent les champs, les galeries marchandes, descendirent jusqu'au quai, en parlant de ce qui agitait le paysage audiovisuel. Tout y passa, les currantes marées publicitaires, les rires enregistrés, les créateurs placardisés, les animateurs photocopiés, les films coupés, châtrés, les cours de la bourse affichés dans les ascenseurs de télépremière, l'information spectacle, la politique poubelle, les dessins animés achetés au poids de la pellicule, les séries prédigérées, les scénaristes serpillières. Ils s'arrêtèrent devant l'Assemblée nationale, le cœur au bord des lèvres, comme au sortir d'un repas d'anniversaire, la bile remplaçant le cholestérol. Carole se hissa sur le parapet du pont et s'assit, face à la place de la Concorde. Simon vint se placer entre ses jambes.
Ce n'est peut-être pas gratifiant de dire dans une soirée mondaine qu'on est metteur en scène de Café Croissant, mais je me tenais à l'écart du Marigot. Même si Teddy Bouchareau n'est pas une lumière, au moins il me faisait pas chier. Tandis qu'avec Thomas Levaillant, ça va être une autre paire de manches. Olivier Lucchini bosse avec lui de temps en temps. L'enfer de l'ego, je me demande comment il passe les portes. J'ai jamais remarqué le rapport entre son nom et son émission de télé.
Carole se renversa en arrière pour suivre le sillage d'un hors-bord.
Non, je vois pas à quoi tu fais allusion.
Il lui caressa les cuisses. Le feu de la Chambre des députés passa au vert, libérant un flot de voitures.
Thomas Levaillant, toute la vérité. Ce sont les mêmes initiales, TLV. Il faut être sacrément malade au niveau des chevilles pour oser un truc pareil, non? Il devrait aller faire un tour sur le divan d'Henri Chapier.
C'est peut-être un hasard, Simon. À mon avis, tu devrais pas te monter la tête contre lui avant de voir comment il se comporte à ton égard. Si c'est vraiment un sale con, je fais confiance à tes cadrages subliminaux pour que les spectateurs le comprennent sans avoir besoin de sous-titrage.
Thomas Levaillant le convoqua le lendemain après la mise en boîte de Café Croissant. Le producteur trônait devant le panorama réel de Paris. Simon pouvait distinguer nettement les ascenseurs montant à l'assaut du dernier étage de la Tour Eiffel. TLV lui désigna un siège et consacra les 5 premières minutes de l'entretien à lui dire combien il estimait son travail. À l'écouter, on arrivait presque à oublier qu'il régurgitait ses fiches et à croire qu'il possédait la collection complète de Café Croissant.
Il est évident que je me montre beaucoup plus directif envers mes réalisateurs que Teddy Bouchareau. Les responsabilités ne se situent pas au même niveau. Je ne fais pas dans la variété et le best-seller. Mes invités ont tous une envergure nationale, certains une ambition présidentielle, et il est de mon devoir de prendre en compte leur surface médiatique. Vous me suivez ?
Simon détacha son regard des toits du Grand Palais.
En tout cas, je comprends ce que vous dites. Je regarde assez souvent l'émission. Plan alterné du journaliste, de vous-même, de l'invité, panotage sur le public, pose sur les visages connus, tunnel sur la figure de l'invité lors de sa réponse, agrémenté de quelques brefs inserts des réactions du journaliste et du public. C'est ce que vous voulez ?
Thomas Levaillant laissa échapper un sourire.
On ne change rien. La formule nous vaut 15 points d'audience chaque semaine. Votre analyse est parfaite. C'est très exactement ce que je demande. Du travail propre. L'important, ce n'est pas l'image, mais ce que nous leur faisons dire. J'ai l'habitude d'expliquer que toute la vérité, c'est en fait de la radio filmée. La mise en scène doit être réduite au minimum. Tout effet de cadrage ne peut qu'affaiblir le message.
Simon n'essaya pas de modifier le jugement du journaliste. Il aurait pu lui passer des vidéos des interventions de Gorbatchev, Reagan, De Gaulle, Mitterrand, pointer les évolutions, montrer comment on accentuait la solennité d'une intervention par un léger mouvement de recul, une mise à distance. Il choisit de se taire, de faire semblant d'avaler le vieux discours sur la caméra innocente. Au cours des 2 semaines suivantes, il se prépara mentalement à sa première de toute la vérité en étudiant le physique, les tics et manies de l'invité programmé, Édouard Balladur. D'évidence, il fallait éviter les gros plans sur la bouche fuyante, la caméra de côté qui risquait d'accentuer le profil bourbonien de l'intéressé, les contre-plongées qui donneraient l'impression de voir ses bajoues gonflées et le gratifieraient d'une tête de mérou. Il fit connaissance avec l'équipe placée sous sa responsabilité. Elle était constituée en grande majorité de professionnels aguerris et de compter qu'un minimum de cinéphiles, surnom qui désignait les filles et fils de famille pistonnés par une huile de télépremière. La prestation d'Édouard Balladur ne fut pas plus remarquée que les précédentes, ni moins, et Simon Elmaz s'habitua à ce rythme de travail, alternant 2 mises en boîte hebdomadaires de Café Croissant et le cérémonial mensuel de Toute la vérité. Il avait refusé de s'installer à l'étage des décideurs et insisté pour garder son bureau-refuge près de la salle de détente du personnel. C'est là, 6 mois plus tard, en décrochant le téléphone, que l'histoire le rattrapa.
Simon,
Il reconnut la voix de Christine, son assistante sur TLV.
Tu laisses tout tomber sur la prochaine, on a un gros pépin avec l'ancien président du Sénat, Gaston Menerville.
Quel genre ? Il se décommande ?
Elle ne put s'empêcher de laisser partir un petit rire nerveux.
Ça va être dur de le faire revenir sur sa décision. Il vient de casser sa pipe.
Il nous reste à peine 3 jours pour nous retourner. Qu'est-ce qu'a décidé le vaillant ? Il annule, il rediffuse ?
Il eut conscience d'un malaise à l'autre bout du fil.
Non. Pour être franche, c'est ça la véritable tuile. Il invite Gilles Doré, le patron du Parti National Français.
Il reçut la nouvelle aussi mal qu'un direct au foie. Il laissa passer quelques secondes pour se ressaisir.
Comment réagit l'équipe ?
À part 2 ou 3, ils s'en foutent. Depuis des années, ils se sont habitués à filmer n'importe qui, n'importe comment. Quand je leur en parle, ils n'arrêtent pas de me dire « Arrête de rêver, Christine, on a une famille, il faut bien bouffer. » À force, les intestins prennent la place du cerveau.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?
J'en sais rien. Je vais peut-être essayer de me faire remplacer.
À midi moins le quart, il attendait déjà en bas de l'immeuble où Carole travaillait. Il la mit au courant de la situation. Elle le prit dans ses bras.
Tu peux pas tomber malade ? Je connais un médecin qui acceptera sans poser de questions de t'arrêter pendant 1 semaine.
Je suis dans le potage. Christine, mon assistante, se fait remplacer. Si je me fais porter pâle, le résultat sera le même pour les types assis dans leur canapé. Doré ramassera 15% d'audience et ses idées pourries pénétreront un peu plus dans les esprits.
Carole l'entraîna vers la terrasse du Fouquet's.
Et Thomas Levaillant, c'est pas un facho. Il l'invite peut-être pour démonter le personnage.
Simon haussa les épaules, une moue de mépris aux lèvres.
J'ai regardé le pressbook de l'émission. Ça fait 3 fois qu'il l'invite. 1 fois par an pour préparer les élections. Il aurait au moins pu avoir le courage de lui demander pourquoi il s'était fait rajouter une particule. Il ne s'est jamais appelé Doré, mais tout simplement Auré, avec l'initiale de Gilles, son prénom. Ça donnait G. Auré, Goré, voilà pourquoi.
C'est pas un argument, Simon. Il n'est pas responsable de son nom.
Ils commandèrent 2 kirs champagne.
Tout est bon contre eux. On ne va pas revenir sur les camps, sur toute cette horreur. J'étais déjà assez désespéré avec mon histoire. En fait, ce que je reproche le plus à ces gens-là, c'est de m'avoir privé de l'amour de mes 2 grands-pères, de mes grands-mères, des oncles, des tantes, de leurs sourires, de leurs gâteaux. Il te manque quelque chose d'essentiel quand tu n'as eu que des parents et rien d'autre que la mort avant.
Il ne dormit pratiquement pas au cours des 2 nuits précédant la venue du leader du Parti National Français, écartelé entre les avis d'amis lui conseillant de se défiler et d'autres le suppliant de monter au créneau. Il passa par des phases d'abattement, des moments d'exaltation. Le pire, ce fut l'humiliation. Au détour d'un couloir, il s'était trouvé nez à nez avec Maurice Gaffemard, l'un des principaux réalisateurs de Toute la vérité, et lui avait demandé si ça ne le dérangerait pas d'assurer la vacation à sa place. L'autre ne s'était pas contenté de refuser. Ses paroles avaient hanté chaque seconde de la dernière nuit. « Vous êtes bien tous les mêmes. Toujours à vous faire plaindre et dès que ça devient sérieux, les premiers à prendre la tangente. » Vers 5 heures, il avait téléphoné à son assistante. Christine ne dormait pas, elle non plus. Personne n'avait accepté de prendre sa place. Il lui exposa le plan qu'il avait mis au point pour sauver l'honneur. Elle accepta, la mort dans l'âme, de faire partie du complot. Gilles Doré débarqua dans le hall, entouré d'une bonne moitié du comité central du PNF. Une hôtesse guida la troupe jusqu'au grand auditorium et le chef, rayonnant, s'installa au centre du décor tendu de bleu roi. Thomas Levaillant vint le saluer et ils papotèrent ensemble durant un bon quart d'heure, tandis que le public prenait place sur les gradins. Les moniteurs placés au sol renvoyaient les images prises par les différentes caméras et un témoin rouge s'allumait sur le cadrage choisi par le réalisateur. Ainsi, Thomas Levaillant et son invité pouvaient contrôler tout en discutant le travail de montage. La régie envoya son message.
Antenne dans 2 minutes.
Tous les acteurs se figèrent. Christine, qui avait pris les commandes de la caméra numéro 3, fit un clin d'œil à Simon. Il lui répondit d'un signe et observa la course du point lumineux sur le cadran des secondes. Une pensée lui traversa l'esprit quand il donna l'ordre de passage du générique. Autant de caméras, autant de fusils. À 5 mètres, derrière la vitre, Goret se vautrait dans sa fange. Thomas le Vaillant ne semblait pas être dérangé par les odeurs de bauge. Simon le fit apparaître plein cadre et bloqua la caméra numéro 1. Le journaliste se contempla et remua ses fiches.
Bonjour, monsieur Gilles Doré.
Bonjour.
Pour commencer, je voudrais vous dire que nous avons reçu de nombreuses protestations concernant votre présence dans cette émission.
Le leader d'extrême droite, en parfait professionnel, fixa la caméra 3 et gratifia Christine d'un sourire. Simon attendait cet instant. Il déconnecta tous les écrans de contrôle placés dans l'auditorium et demanda à son assistante de resserrer le plan sur le visage de Goret, qui ne s'était encore aperçu de rien.
Vous savez, je suis habitué à la censure et au bâillon. Selon les sondages, je représente davantage que le parti au pouvoir et pourtant, on me voit moins sur les écrans que les Fabius, Lang ou Kirchmann.
TLV se fit patelin.
Je pense que vous ne choisissez pas ces noms au hasard, que leur consonance y est pour quelque chose.
Gilles Doré venait de constater la panne des retours d'image. Il fronça les sourcils. Le journaliste leva les yeux vers Simon qui lui répondit par un doigt levé.
Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, cher monsieur, ou alors je vois trop bien où vous voulez en venir. Non, soyons clairs, je n'ai rien contre les Juifs, mais on ne m'obligera pas à aimer Chagall ou Mendès sous prétexte qu'ils le sont.
La porte de la régie s'ouvrit violemment. Karl Imas, le responsable à l'identité du Parti national français, se dirigea droit sur Simon Elmaz. Il se pencha au-dessus du seul écran de contrôle encore en fonction et aperçut le visage de son chef, en plan très resserré. On pouvait distinguer le lacis de vénule rouge violacé qui irriguait les joues, le blanc des yeux. Le moindre bouton prenait des allures de furoncle, mais le pire, c'était le minuscule filet de salive qui brillait aux commissures des lèvres.
« C'est vous le réalisateur ?»
Simon s'efforça de ne pas le regarder.
« Oui, et je vous prie de sortir d'ici. Le public n'est pas admis dans les locaux techniques. »«
Et moi, je vous ordonne de modifier immédiatement le cadrage. » Ce que vous êtes en train de faire est inqualifiable.
Écoutez, toutes les liaisons avec les caméras sont coupées. Sur le plateau, personne ne sait exactement ce qui se passe. Si vous voulez intervenir, vous n'avez qu'une solution. Interlude.
Thomas le Vaillant observait la scène. Il tentait de lire les attitudes de ceux qui remuaient dans le bocal, tout en mûrissant sa seconde question.
Vous avez récemment critiqué, lors d'une conférence de presse à Berck, les travaux du comité d'éthique et évoquer une gestion plus normale du matériel humain indésirable. Pouvez-vous être plus précis ?
Gilles Doré, de satisfaction, se frotta les fesses sur le cuir du fauteuil.
Vous savez, cher Thomas le Vaillant, quand on remplace la célébration de l'homme supérieur par celle de l'homme inférieur, lorsque l'on s'aligne sur les tarés plutôt que sur les ariens en tant que modèle de l'homme futur, lorsque l'on impose une survie dégradante à la place d'une élimination cynique, on produit des effets sensiblement analogues. L'enfer des handicapés congénitaux condamnés à vivre, le supplice des agonisants, la surpopulation dans le tiers-monde, la famine et à terme, le génocide. Je suis pour la justice, non pour l'égalité.
Simon décrocha le téléphone qui sonnait depuis le début de la réponse du leader d'extrême droite. Il identifia la voix du directeur général de Télépremière.
Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Elmaz ? Ça fait 8 minutes, montre en main, que vous nous servez un plan fixe sur la tronche de Gilles Doré. C'est insupportable, le standard est saturé d'appels de contestation.
Qu'est-ce qu'ils disent ?
La même chose que moi, que vous êtes viré.
Mais ils n'écoutent pas les horreurs qu'ils racontent. Ce type récite Mein Kampf.
Il se rendit compte qu'il parlait dans le vide et reposa le combiné sur son support. Le Vaillant, le front couvert de sueur, donnait des signes de faiblesse et transmettait sa nervosité à Gilles Doré.
Monsieur Président.
Pas encore, pas encore. Je vous remercie d'anticiper.
Je voulais dire président du PNF. À propos de l'immigration, on a pu dire que vous fournissiez de mauvaises réponses à de vraies questions. Quelles seraient les bonnes réponses ?
Simon contacta Christine.
Resserre encore le cadre. Fais-moi un plan rapproché sur la seule bouche de Goret, qu'on a l'impression de voir un film X.
Je suis un Celte, et l'une des principales qualités de cette race est de dire la vérité sans pudibonderie. La France n'est pas un hôtel de passe et l'affirmation que les Français ont des droits supérieurs aux étrangers est absolument conforme au message évangélique. La Bible nous dit d'aimer notre prochain, pas notre lointain.
Quand vous dites étranger, vous pensez aussi à l'Europe ?
Je suis avant tout un patriote et je n'appelle aucune invasion de mes vœux. Mais si j'avais le choix, j'aimerais mieux être envahi par les Allemands que par les Arabes. Au moins, eux, ils avaient Goethe, Schiller. Les Arabes n'ont jamais rien fait de mémorable.
Les derniers moniteurs en marche se brouillèrent sur cette phrase définitive. Des barreaux de prison colorés strièrent les écrans, puis les premières notes de la Marseillaise retentirent. Un panneau apparut à l'antenne, communiqué numéro 1 du comité de salut public. Un général en grand uniforme, la poitrine bardée de médailles, trônait, sa casquette coincée entre deux drapeaux tricolores.
L'abaissement de la France sur la scène internationale, le pourrissement de ses institutions, la gangrène qui ronge son personnel politique, ont conduit un groupe d'officiers supérieurs représentatifs de notre armée, soucieux de voir ses missions respectées, à s'assurer du destin de notre pays. L'armée a parfois le devoir de rétablir un ordre salvateur, en France comme au Chili. La jeunesse abandonnée, inquiète, est prête à se donner dans un grand élan à qui lui proposera un idéal à la hauteur de ses ambitions. Cet homme, nous l'avons élu comme chef. Et c'est à lui que revient l'honneur de vous présenter le programme du comité de salut public.
Simon Elmaz se laissa tomber sur son siège. Tout le personnel de Télépremière était comme tétanisé par la nouvelle. Ils se laissèrent faire quand une cinquantaine de parachutistes investirent les studios. Les militaires, formés aux transmissions, s'emparèrent de toutes les commandes en moins de 2 minutes. Karl Imas, à la tête d'un détachement de skins armés de mitraillettes, s'approcha de Simon et lui cracha au visage.
« Tu as mal choisi ton jour. »
Il se tourna vers ses hommes.
« Occupez-vous de lui et de la fille qui était derrière la caméra. Vous savez quoi en faire. »
On amena Christine, tandis que des militants du Parti National Français recouvraient le drapé bleu de toute la vérité de portraits de leur leader et installaient des drapeaux. Gilles Doré sortit de sa poche le discours préparé en vue de sa prise de pouvoir. Karl Imas s'approcha de lui.
« Qu'est-ce qu'on fait du journaliste, monsieur le Président ?»
Le chef de la junte fronça les sourcils.
« Quel journaliste ?»«
Celui qui vous interviewait, Thierry Levaillant. »
Gilles Doré pointa le doigt vers Simon et Christine, que les skins poussaient vers les sous-sols.
« Emmenez-le avec ces deux-là, il ne vaut pas plus cher. »
C'était « Pages arrachées à Didier Deninx », extrait de « L'heure de vérité », avec Bruno Pavio, le narrateur, et Xavier Xapla, Grégoire Isvarine, Jean-Yves Chilot, Manon Leroy, Olivier Broche, Émilie Chartier, Hervé Furic, Laurent Horry, Éric Aymon, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, équipe de réalisation, Claude Nior, Emmanuel Arming, Alice Cachaner, Jean-Mathieu Zang. L'heure de vérité est publiée aux éditions Gallimard, collection Folio.
C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures. Toute cette semaine, Didier Deninx. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.
Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Christophe André, 3 minutes à méditer.